الشلبي
Bonjour, vous êtes sur l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine, aujourd'hui animée par Pierre de l'Union juive française pour la paix et par Brigitte de Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité. Vous pouvez retrouver cette émission chaque lundi de 11h, entre 11h et 12h, toujours sur Radio Galère 88.4. Vous trouverez des articles, un agenda et d'autres informations sur le site de l'association https://asso.palestine13.org. Enfin, vous pouvez nous écrire par courriel à asso.palestine13@gmail.com. Et pour l'UJFP, vous trouvez aussi également un site sans problème. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Jour où les Palestiniens du monde entier commémorent la Nakba, ou catastrophe. C'est le 76e anniversaire, entre guillemets, de cette Nakba. Et peut-être je vais commencer par demander à Pierre peut-être de nous situer ces événements de 48, mais qu'est-ce qui les a préparés? C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en amont de cette Nakba historique?
Bonjour à toutes et à tous. La dépossession des Palestiniens de leur propre pays avait commencé une cinquantaine d'années auparavant avec le projet sioniste, avec un gigantesque mensonge que les Juifs, après avoir été en exil, rentraient chez eux, ce qui est évidemment faux. Le sionisme a été d'entrée un colonialisme de remplacement, c'est-à-dire que jamais il n'a songé ni à reconnaître la dignité, les droits et l'existence du peuple autochtone, ni à chercher à vivre avec lui. Il a d'entrée constitué des institutions uniquement juives pour les juifs, banque coloniale juive, fonds national juif, syndicat Histadrut. Et le colonialisme sioniste s'est appuyé d'entrée sur les pires antisémites du monde avec l'idée concordante qu'ils avaient qu'on allait résoudre la question juive en faisant quitter l'Europe aux Juifs. Les Palestiniens se sont aperçus très tôt, dès 1920, que ce colonialisme-là était particulier. Ils avaient l'habitude d'être les gardiens des lieux saints des trois religions monothéistes, donc de vivre avec une minorité juive qui vivait en parfaite harmonie avec ses voisins musulmans ou chrétiens. Mais quand ils ont vu que c'était un colonialisme de remplacement, ils ont commencé à se révolter dès 1920, beaucoup plus en 1929, beaucoup plus en 1936. Mais voilà, ce qui va préparer la Nakba, c'est le fait qu'avec le parapluie de l'impérialisme britannique, les sionistes avaient créé, dès 1920, un syndicat, une armée, la Haganah, qui est l'ancêtre de Tsahal, celle qui commet les crimes de guerre aujourd'hui et le génocide à Gaza. Ils avaient créé l'agent juif qui installait tous les nouveaux colons, qu'ils avaient créé la compagnie de travaux publics, celle qui aujourd'hui a construit les colonies, qu'ils avaient créé la compagnie Mekorot des eaux, celle qui pille l'eau de la Palestine pour la revendre beaucoup plus cher aux Palestiniens qu'aux colons. Bref, ce colonialisme-là avait préparé ce qui allait devenir le nettoyage ethnique de la Palestine. Et j'ajoute juste, il y a la guerre de 39-45, dans laquelle les sionistes ne vont jouer qu'un rôle confidentiel dans la résistance juive au nazisme, mais il va y avoir une espèce de consensus de toute la pseudo-communauté internationale après 1945 pour faire payer aux Palestiniens pour un crime bien européen qui était l'antisémitisme et le génocide nazi. Et donc il va y avoir ce consensus-là de favoriser la création de l'État d'Israël et de favoriser le nettoyage ethnique de la Palestine.
Je crois que c'était important que tu resitues dans le avant 39-45, parce qu'on voit quand même très souvent des raccourcis où en fait on fait démarrer la question israélo-palestinienne à la Seconde Guerre mondiale et au génocide des Juifs, alors qu'effectivement, tu l'expliques tout à fait, que la préparation, tout ça a été préparé de longue date et il n'y aurait pas eu la guerre, vraisemblablement, les choses auraient évolué peut-être plus lentement, mais dans le même sens. Quoi.
Et même pire, je dirais que parmi les Juifs qui se retrouvent en 1947, donc quand la guerre va commencer en Palestine, probablement une moitié sont arrivés là parce qu'ils ne savaient pas où aller. Et il y a en 1944 un vote dans le Yishuv, dans l'établissement autonome juif sous mandat britannique, et 45% votent pour un État binational. C'est-à-dire que la veille de la guerre de 1948, un futur Israélien sur deux n'est pas pour foutre dehors les Palestiniens. Mais l'idéologie sioniste avait prémédité ce nettoyage ethnique 50 ans auparavant. Il n'a jamais été question pour eux de vivre avec les autres. Il a toujours été question de s'accaparer la terre. Et les grandes discussions qu'il y a à l'intérieur du mouvement sioniste dans les années 1930, c'est comment on va les expulser, les reloger en Irak ou ailleurs.
Alors, on ne va pas s'appesantir très très longtemps sur ce qui s'est passé en 1948 et ce qui est dénommé la Nakba. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on en dise quelque chose parce que, je pense qu'il va falloir aussi, dans une deuxième partie, que nous parlions également de ce qui se passe aujourd'hui et de la façon dont la Nakba ne s'est pas arrêtée en 1948. Donc peut-être, si tu peux nous synthétiser un petit peu ce qui s'est passé en 1948 et l'expulsion de milliers de Palestiniens.
800 000.
Voilà, si tu peux un peu.
Il n'y a même plus de débat historique sur cette question, puisque dès 1949, les historiens palestiniens ont tous dit, puis les réfugiés qui se retrouvaient autour, nous avons été victimes d'un nettoyage ethnique prémédité. Et la version israélienne, elle avait été donnée par Ben-Gourion dès les armistices de 1949. C'était déjà le déni. C'était nous n'avons expulsé personne. Les Arabes sont partis d'eux-mêmes. Alors comment on pourrait remettre un petit peu la situation en perspective. D'abord, il y a entre 1945 et 1948, toutes les milices juives, elles ne s'appellent pas encore israéliennes, aussi bien celles officielles, donc la Haganah social-démocrate, que les milices d'extrême droite, l'Irgun de Menachem Begin et le groupe Stern d'Itzrak Shamir, vont multiplier des assassinats particulièrement sanglants, avant tout contre la population palestinienne sur les marchés, mais également contre l'armée britannique, qui aura de nombreux morts. L'attentat le plus emblématique, c'est l'hôtel de King David à Jérusalem. Mais il tue aussi un assez grand nombre de juifs, puisque déjà l'attentat de l'hôtel King David, il y a une vingtaine de juifs qui sont tués. Mais pour eux, tout juif qui travaillait pour le mandat britannique était un traître qu'il convenait d'assassiner. Évidemment, ce qui va être l'élément déclenchant, c'est le vote du plan de partage de novembre 1947. C'est quand même un moment particulièrement tragique. D'abord parce qu'on sait maintenant que dans ce vote-là, aux Nations Unies, un certain nombre de voix ont été achetées, notamment des pays qui étaient faibles économiquement, comme le Libéria, Haïti, etc. Leurs votes ont été achetés. On sait en plus que le haut comité arabe, présidé entre autres par la famille de Leila Shahid, sont allés porter aux Nations Unies le projet d'un État pour tous ses habitants, donc une espèce d'État binational dont la constitution serait un petit peu calquée sur celle des États-Unis et que bien évidemment ce projet a été mis à la poubelle. Et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que entre le vote du plan de partage de 29 novembre 1947 et le début officiel de la Nakba, hein, les deux dates, tu les as données. 14 mai, c'est la déclaration d'indépendance d'Israël. 15 mai, c'est l'entrée des troupes des pays arabes environnants en guerre. Donc pendant ces quelques mois, la quasi-totalité des 400 000 Palestiniens habitant l'État juif proposé par l'ONU aux sionistes ont été expulsés. Bref, l'ONU est responsable quand même de la moitié de la Nakba. On sait aujourd'hui qu'il n'y a plus non plus de débat historique là-dessus, que cette guerre va être ponctuée par de très nombreux crimes de guerre. Il y a le film qui est sorti, Tantoura, sur le massacre du village de Tantoura, un village de pêcheurs à une vingtaine de kilomètres au sud de Haïfa, où sous le parking de la plage aujourd'hui, il y a un charnier avec 250 corps des villageois qui ont été massacrés. Un des massacres les plus emblématiques, c'est celui de Deir Yassin, à 5 kilomètres de Jérusalem. C'est en avril.
Le 9 avril 45.
Le 9 avril 1947. Et 48, pardon. Et ce massacre a beaucoup servi aux milices sionistes pour effrayer les populations et pour leur dire que s'ils résistaient, ils allaient subir la même chose qu'à Deir Yassin. Je dirais quand même plusieurs choses sur Deir Yassin. Le massacre est commis par les milices d'extrême droite Irgun et Lehi, mais immédiatement après le massacre, le village est occupé par l'armée officielle, la Haganah. Donc ils s'étaient sérieusement partagé le travail, si j'ose dire. Je dirais aussi qu'aujourd'hui, Deir Yassin, ça s'appelle Givat Shaul. C'est un faubourg de Jérusalem. Le tunnel qui passe sous Givat Shaul s'appelle le tunnel Menachem Begin, du nom de l'assassin. Et c'est à Givat Shaul qu'il y a le plus grand cimetière d'Israël, où même des victimes d'attentats antisémites en France, comme Ilan Halimi, ont été enterrés là-bas. Donc on voit un petit peu l'espèce d'obscénité qui s'est passée autour de ce qu'a été Deir Yassin. Dans l'entrée en guerre des pays voisins, il y avait un déséquilibre absolu des forces qu'il faut comprendre. Dans l'armée officielle, dans la Haganah, il y avait 28 000 soldats qui avaient servi dans les troupes britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. En face, du côté palestinien, après la grande révolte palestinienne de 1936-1939, l'essentiel de leurs élites qui n'étaient pas mortes avaient été déportées et vivaient à Beyrouth ou ailleurs et donc n'ont pas été en situation de prendre un leadership. Et puis les pays voisins, les pays arabes, ont déjà trahi à cette époque. On pense souvent aujourd'hui à la trahison avec les accords d'Abraham. Enfin, les troupes égyptiennes se battaient pour conquérir une partie du désert du Naqab ou Negev. Les troupes irakiennes et syriennes se battaient pour conquérir la Galilée. Et la seule armée qui était en situation, par sa force militaire, elle avait été formée par les Britanniques, d'infliger des défaites aux troupes sionistes, qui était la future armée jordanienne, et qui a remporté d'ailleurs des victoires à Latroun. Elle ne s'est battue que parce que les sionistes avaient violé un accord de partage de la Palestine signé avec le futur roi de Jordanie. Cet accord prévoyait qu'une bonne partie de la Palestine deviendrait jordanienne, mais les sionistes ont tenu à occuper tous les villages entre Tel Aviv et Jérusalem. C'est là qu'a eu lieu cette guerre entre Israël et la Jordanie. Mais voilà. Et au bout du compte, quand les armistices sont signés après la guerre, d'abord il y a eu un nettoyage ethnique prémédité. Les sionistes avaient dans chaque village des listes importantes, des personnalités, des gens qu'il fallait tuer, des gens qu'il fallait coûte que coûte exiler. Ils ont conclu des accords avec des villages. Si vous n'entrez pas en guerre, on vous laisse tranquille. Ils ont quand même expulsé ces villages. Par exemple, Tel Aviv est construit sur un certain nombre de villages qui avaient conclu des accords avec les sionistes et dont les habitants ont été quand même déportés. Donc voilà, on a 800 000 personnes qui ont été déportées de façon délibérée et préméditée. Il n'y a plus aucun débat historique là-dessus.
Et tu peux dire un peu combien de Palestiniens sont restés dans ce qu'est l'Israël d'aujourd'hui ?
Il y a eu 28 000 morts côté palestinien. Il est resté 170 000 Palestiniens, dont un certain nombre étaient déjà exclus de leur village, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur le territoire du futur État d'Israël, mais leur village avait été occupé, par exemple Safaria, à côté de Nazareth, c'est le cas. Et aujourd'hui, il y a parmi leurs descendants un assez grand nombre de villages palestiniens non reconnus. La plupart de ces villages palestiniens non reconnus, c'est dans le désert du Naqab, mais il y a aussi des villages non reconnus en Galilée, c'est-à-dire ce sont des Palestiniens qui ont pu rester, mais qui n'ont pas pu retrouver leur village. Il faut aussi comprendre sur la Nakba, parce que sinon on ne voit pas l'entièreté du processus. Donc d'une part que les Israéliens vont passer de 54% du territoire qui leur avait été octroyé par l'ONU à 78%, qu'ils avaient 8% de la terre la veille de la guerre de 48 et qu'ils se retrouvent avec 92% de la terre après 1948 et maintenant 97%, parce que la Nakba n'a jamais cessé contre les Palestiniens de 48, ceux qui ont pu rester. Tout le monde dit, mais c'est démocratique, ils ont accordé le droit de vote aux Palestiniens qui restaient. À partir du moment où on en avait exclu la quasi-totalité, ça ne posait pas de problème pour l'obsession sioniste qui était un État ethniquement pur de leur accorder le droit de vote. Mais on leur accordait le droit de vote, ils ont été des sous-citoyens, ils ont vécu sous couvre-feu jusqu'en 1966, ils ont subi le massacre de Kafkassem en 1956, plus tard la révolte de la Journée de la Terre en 1976, et encore aujourd'hui un vol des terres manifeste dans tout le nord du désert du Nakab. Et la plupart des métiers liés à l'énergie ou à la sécurité leur sont interdits. Et aujourd'hui, il y a 2 millions de Palestiniens de 48, dont 55% vivent sous le seuil de pauvreté, contre 15% des Juifs israéliens.
Ah, peut-être qu'on va...
On va parler de l'UNRWA quand même.
Ah oui, peut-être que de l'UNRWA, oui.
Il y a encore quelque chose de terrible qui concerne la Nakba. C'est que dès les armistices, l'ONU vote fin 1948 la résolution 194 de l'ONU, donc, qui exige le retour des réfugiés palestiniens. Non seulement Israël refuse ce retour, ils vont détruire systématiquement plusieurs centaines de villages palestiniens. Ils vont achever l'évacuation des Palestiniens d'un assez grand nombre de villes. Il y a des villes comme Ascalon ou Ashkelon, selon qu'on prenne la prononciation palestinienne ou hébreu. C'est une ville qui était encore peuplée de Palestiniens jusqu'en 1952 et qui a été évacuée par la suite. Et ils interdisent ce retour. Ils vont changer le nom des villes, ils vont changer le nom des rivières, ils vont changer le nom des montagnes. Ils vont effacer la trace même du peuple palestinien. Et ça n'empêchera pas, en 1949, l'ONU de reconnaître Israël en ses rangs avec la mention « respecte le droit international », alors que ce nouvel État venait de se livrer à une violation manifeste. C'est à cette époque qu'est créé l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés. Donc 75 ans, l'UNRWA devait être créé de façon totalement transitoire en attendant le retour des réfugiés dans leur maison. Aujourd'hui, il y a 6 millions de Palestiniens qui dépendent de l'UNRWA. À Gaza, c'est 72% de la population. En Cisjordanie, c'est 35%. Il y a 58 camps répartis entre Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le Liban, la Syrie et la Jordanie. Il y a encore des millions de Palestiniens qui vivent encore plus loin, dans le Golfe, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc voilà, la Nakba signifie que le peuple palestinien est devenu un peuple de réfugiés. Et j'ajouterais que imaginer une paix qui n'aborde pas de front la question centrale, qui est la question du retour des réfugiés chez eux, c'est évidemment pas une paix.
Merci Pierre. Nous allons faire une petite pause. On vous propose d'écouter une chanson qui vient de sortir, je crois, il y a à peine 8 jours. Du rappeur américain Macklemore avec Eric Clapton à la guitare, et il joue et chante aux couleurs de la Palestine avec un morceau qui a été intitulé Hinz Hall en hommage à la jeune fillette Hind Rajab, qui était une fillette palestinienne de 6 ans dont vous vous souvenez sans doute parce qu'elle a été tuée par des tirs israéliens après avoir passé des heures piégée dans la voiture de sa famille, alors entouré des corps de tous ses proches. Et donc cette chanson a été créée en écho et en soutien aux manifestations étudiantes qui se déroulent aux USA et dans le monde entier, y compris en France. Voilà, donc on vous propose d'écouter cette chanson qui vient de sortir. «
Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
Voilà, donc nous allons poursuivre. Avant d'arriver à ce qui se passe aujourd'hui, il est important de voir un peu ce qui s'est passé entre 48 et puis, on peut dire maintenant les années 2020, parce qu'il y a le 7 octobre, mais en fait, le 7 octobre n'a été que la suite de tout ce qui vient de se produire. Donc peut-être, Pierre, tu peux nous redire un petit peu en quoi pourquoi les Palestiniens disent que la Nakba, ce n'est pas un fait historique, un jour donné, à un moment donné, que, bon, voilà, il y a le 15 mai, OK, mais que, en fait, la Nakba ne s'est jamais arrêtée. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer cette position ?
Alors déjà, il n'y a jamais eu, de la part des dirigeants israéliens, jusqu'à Oslo, la moindre reconnaissance de l'existence des Palestiniens. C'est-à-dire que Ben-Gourion avait dit « les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Plus tard, Golda Meir dira « les Palestiniens, je ne vois pas de quoi vous parlez ». Il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que Israël possède, après l'armistice de 1949, un État quasi ethniquement pur, ce qui était le programme du sionisme, avec un bon 80% de juifs. Mais ça ne leur a jamais suffi. C'est-à-dire que dès les toutes premières années, on a reproché à Ben-Gourion de ne pas avoir fini le travail. Et dès 1948, la conquête qui aura lieu en 1967 va être préméditée et organisée. Là aussi, il y a eu une contrefaçon historique. On a fait croire à l'époque, en 1967, qu'Israël était menacé d'anéantissement. Non seulement c'est évidemment faux, les plans d'agression des pays voisins Égypte, Syrie et Jordanie étaient prêts depuis très longtemps. Et moi-même, je l'ai su dans ma propre famille, parce qu'on m'a expliqué dès 1967 que toute la guerre de conquête était préméditée. La question est réglée en 6 jours, ce qui veut bien dire qu'il y avait un déséquilibre total. Mais surtout, dès 1967, la colonisation est décidée. Ce n'est pas l'extrême droite qui a commencé la colonisation, C'est les travaillistes qui sont au pouvoir à l'époque et qui vont commencer à coloniser la vieille ville de Jérusalem, la vallée du Jourdain, Beit Omar. C'est un ministre travailliste, Yigal Alon, qui est à l'origine de ces plans qui vont continuer à être organisés. Cette colonisation va s'accompagner. Après 67, il y a l'OLP qui arrive. Il y a la Palestine qui commence à s'organiser. L'OLP réussit à représenter à peu près tous les morceaux de la Palestine éclatée et fragmentée, aussi bien ceux des territoires nouvellement occupés, donc Gaza, la Cisjordanie, que les Palestiniens de l'extérieur, que les Palestiniens de Jérusalem ou les Palestiniens de 48. Et face à cette OLP, à cette Palestine qui obtient un premier statut de reconnaissance à l'ONU, quand Arafat est invité à l'ONU en 1974, il va y avoir un raidissement total de la société israélienne. C'est l'extrême droite fasciste qui arrive au pouvoir en 1977, qui va directement accélérer énormément la colonisation, faire des grands massacres dont les plus emblématiques, c'est Sabra et Shatila au Liban. Et voilà, on se trouve dans une guerre avec un court moment où on peut penser qu'il y a une issue, Oslo. Alors je dis tout de suite pourquoi Oslo n'a pas été une issue. D'abord, Rabin n'était pas celui qu'on pensait. C'était quand même un criminel de guerre de la guerre de 48. C'était l'homme qui avait commandé l'attaque contre Tunis et l'OLP en 1986. C'était l'homme de la répression de la première intifada qui avait dit « brisez-leur les jambes et les os ». Et quand il y a Oslo, le monde retient son souffle, y a-t-il une solution ? Ben, il n'y a pas de solution si on ne vient pas à bout du sionisme. La seule chose qui a été signée à Oslo, ça a été l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant, donc la création de l'autorité palestinienne. Mais toutes les questions vives de la Palestine, un État palestinien, Jérusalem, le retour des réfugiés, la libération des prisonniers, tout ça, évidemment l'arrêt de la colonisation, tout ça, ça a été des paroles et il n'en est rien sorti. Dans les 26 mois qui séparent la signature d'Oslo de l'assassinat de Rabin, Rabin installe 60 000 colons supplémentaires. Et donc il est assez clair, dès l'arrivée de Netanyahou au pouvoir, qu'on va avoir une accélération terrible et de la violence et de la colonisation. Aujourd'hui, c'est avant Gaza, avant le 7 octobre, la situation c'est quoi ? C'est 900 000 colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Quand on va là-bas, on se pose immédiatement la question, elle est où la Palestine ? Toutes les villes et villages palestiniens sont encerclés par un mur qui fait 700 km de long et qui encercle absolument les villes et les villages palestiniens. 900 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. Et aujourd'hui, il y en avait 5 000 avant le 7 octobre. On en est à 12 000 actuellement. Il n'y a pas une seule famille en Palestine qui n'a pas des membres de sa famille, des membres de la famille qui ont été en prison. Il y a un vol des terres absolument énorme, un vol de l'eau. C'est les sionistes se sont emparés de l'eau palestinienne, se sont emparés des terres palestiniennes. Une véritable terreur s'est abattue sur l'ensemble des territoires palestiniens. Gaza est bouclée par terre, par mer et par air depuis 17 ans maintenant. Il faut comprendre qu'à chaque bombardement sur Gaza, et bien avant le 7 octobre, il y en a eu plein. Il y a eu plomb durci, il y a eu pilier de la défense, il y a eu bordure protectrice, il y a eu le massacre de manifestants totalement pacifiques des marches du retour il y a 3 ans. C'était 350 morts et 10 000 estropiés. Voilà, c'est ça la situation de rouleau compresseur colonial qui va précéder les événements du 7 octobre.
Oui, en sachant que c'est vrai que tu as raison de dire que Gaza avait déjà été meurtri de façon terrible, surtout dans ces 15 dernières années. Où les guerres, en gros, tous les 2-3 ans, il y avait une guerre contre Gaza. Je pense quand même qu'on peut dire qu'on n'a jamais, depuis 1947-48, eu une attaque aussi sévère et des destructions aussi sévères, un nombre de morts aussi important et surtout une destruction totale de toute l'infrastructure qui permet de survivre, que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan alimentaire, sur l'eau, l'accaparement, enfin, c'est pas un accaparement des terres comme ceux qu'on va peut-être développer sur la Cisjordanie, mais c'est une destruction, c'est-à-dire que des champs entiers, des terrains entiers ont été labourés complètement, ne permettant absolument plus de cultiver ni même de récolter ce qui avait été semé. Je crois qu'on a atteint un niveau et on n'a pas fini. Jamais atteint, quoi, vraiment.
Alors c'est sûr que déjà, quand on voit le bilan, 35 000 morts, 10 000 disparus, donc à l'échelle de la France, c'est 1,5 million de personnes. Il ne faut surtout pas parler, dans le génocide en cours, de représailles ou de ripostes israéliennes. Hein, ce n'est pas vrai. C'est une nouvelle Nakba. C'est une volonté d'achever ce qui a toujours été le programme sioniste, un maximum de territoire pour un minimum d'Arabes. À Gaza, actuellement, on a plus de 75% des bâtiments qui sont absolument inhabitables. Mais il faut savoir que même avant le 7 octobre, à chaque bombardement, les Israéliens bombardaient en priorité la centrale électrique, la station d'épuration des eaux et les fermes à poulets, qui ne sont évidemment pas des objectifs militaires. C'est que de tout temps, le but des Israéliens à Gaza, ça a été de détruire la société civile, un petit peu comme les Blancs aux États-Unis ont détruit la société amérindienne, et c'était bien ça le modèle. Il faut aussi savoir que Gaza, et on le voit très bien dans le film Yalla Gaza de Roland Nurier, c'est une société incroyablement résiliente, c'est une société extrêmement pluraliste. Nous, on a eu la chance de rencontrer tous les partis politiques à Gaza et il y a véritablement un très grand pluralisme. C'est une société extrêmement éduquée et c'est une société où ceux qui avaient une formation, ils étaient très nombreux parce qu'il y avait 100 000 étudiants dans 6 universités, même quand ils étaient au chômage, mettaient leurs compétences pour que leur société ne s'écroule pas. Et nous, à l'Union juive française pour la paix, on est fiers que ce travail continue avec ceux qui ne sont pas morts, mais que le tissu social tient encore et il permet que l'argent qu'on arrive à envoyer serve à la société et à rester debout. Donc voilà, on va vous passer une chanson parce qu'aujourd'hui, les médias, un certain nombre, nient le génocide. Pour moi, juif... le négationnisme, c'est un crime absolu. Nous, ceux qui ont nié le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour nous, c'est des criminels. Et pour nous, tous nos dirigeants et nos médias qui nient qu'il y a un génocide en cours, ce sont des négationnistes. Alors la chanson, elle s'appelle « We didn't know », »,« Nous ne savions pas ». Je vous expliquerai après la chanson.
Explique.
Ouais, la chanson va arriver. Alors je vais un peu l'expliquer. C'est... Tom Paxton, un des folk singers, un des chanteurs de folk des années 60-70, donc l'époque de la guerre du Vietnam. Et sa chanson, c'est « Nous ne savions pas ». Donc c'est d'abord « Nous ne savions pas », dit un Allemand. On entendait bien des trains qui passaient à côté de chez nous, mais vous parlez de camp de concentration, je ne suis pas au courant. « Nous ne savions pas », dit le blanc du sud des États-Unis qui va écouter son prêtre. On a peut-être tué un ou deux rouges ou un ou deux noirs, mais ils sont venus semer la zizanie chez nous. Vous ne pouvez pas nous accuser. Et nous ne savions pas, dit celui qui va aller voter, tenez, c'est d'actualité. Nous ne faisons que servir notre pays. Donc voilà, vous allez écouter cette chanson.
We didn't...
Oui, c'est ça.
No, said the burgomeister, about the camp on the edge of town. It was Hitler and his crew that tore the German nation down. We saw the cattle cars, it's true, maybe they carried a Jew or two. They woke us up as they rattled through, but what did you expect me to do? We didn't know it all, we didn't see a thing. You can't hold us to blame, what could we do? It was a terrible shame, but we can't bear the blame. Oh no, not us, we didn't know. We didn't know, said the congregation, singing a hymn in their church of white. The press was full of lies about us, preacher told us we were right. The outside agitators came, they burned some churches and put the blame on decent southern people's name, to set our colored people aflame. And maybe some of our boys got hot, and a couple of niggers and reds got shot. They should have stayed where they belong, and preacher would have told us if we'd done wrong. We didn't know at all, we didn't see a thing. You can't hold us to blame, what could we do? It was a terrible shame, but we can't bear the blame. Oh no, not us, we didn't know. We didn't know, said the puzzle voter, watching the president on TV. I guess we got to drop those bombs if we're gonna keep South Asia free. The president's such a peaceful man, I guess he's got some kind of plan. They say we're torturing prisoners of war, but I don't believe that stuff no more. Torturing prisoners is a communist game, and you can bet they're doing the same. I wish this war was over and through, but what do you expect me to do? We didn't know at all, we didn't see a thing. You can't hold us to blame, what could we do? It was a terrible shame, but we can't bear the blame. Oh no, not us, we didn't know.
Voilà, nous reprenons donc l'émission Une heure en Palestine. Après Gaza, nous tenons quand même à parler de ce qui se passe aussi en Cisjordanie, bien que les médias en parlent beaucoup, beaucoup moins. Mais si Gaza est particulièrement frappé et très durement frappé actuellement, la Cisjordanie l'est également. Il faut savoir qu'en Cisjordanie donc, vivent à peu près 2,8 millions de Palestiniens, territoire occupé depuis 1967 par Israël. Et la situation y a toujours été assez tendue, et avant la guerre également, avec des raids réguliers menés par les forces israéliennes. Mais c'est vrai que depuis l'attaque commise par le Hamas le 7 octobre et l'attaque de Gaza, les choses n'ont fait que s'intensifier. Les incidents entre colons et palestiniens se sont multipliés, colons et palestiniens et armés et palestiniens. Et ce qu'on voit, c'est que je dirais qu'il y a deux processus importants. C'est d'une part l'implantation de nouvelles colonies, puisque au total, actuellement, on pense qu'il y a à peu près 146 colonies de peuplement en Cisjordanie, d'après une association israélienne, Peace Now, et qu'il y a à peu près 470 000 personnes qui vivent dans ces colonies israéliennes de Cisjordanie. Elles sont pas implantées, elles sont plus implantées dans la partie ouest de la Cisjordanie et moins dans la partie vallée du Jourdain, qui est plus c'est pas une colonie de peuplement dans la vallée du Jourdain. Et l'autre phénomène, c'est quand même aussi tout ce qui se passe au niveau de l'accaparement des terres. Alors évidemment par l'implantation de nouvelles colonies, mais également en chassant particulièrement actuellement la population bédouine. Alors ça, peut-être, Pierre, tu peux nous parler un peu des Bédouins en Cisjordanie et dans la zone C de la vallée du Jourdain, où c'est encore là qu'ils étaient le plus implantés en faisant paître leurs troupeaux et en se déplaçant, et que maintenant, énormément, depuis le 7 octobre, ont été complètement chassés de leurs terres.
Surtout que, historiquement, les Israéliens avaient essayé, après 1948, le colonialisme français avait fait un peu pareil en Algérie, de jouer les nomades contre les sédentaires et d'essayer de jouer les Bédouins contre le reste de la population palestinienne, parce que les Bédouins sont aussi palestiniens. Mais maintenant, comme ils veulent la terre à tout prix, ils la prennent, ils délogent. Le village emblématique, bien sûr, c'est Massafariata. Ceux qui ont l'illusion qu'il existe une opposition démocratique à Netanyahou sauront quand même que la fameuse Cour suprême, pour laquelle pas mal de manifestants en Israël sont descendus dans la rue, elle a légalisé l'expropriation des villageois de Massafariata, comme elle avait légalisé quelque temps avant la torture dite raisonnable. Et il est sûr que toute cette zone au sud d'Hébron aujourd'hui, Khalil en arabe, c'est devenu un objectif majeur. Mais tout est un objectif majeur. On a aujourd'hui La Cisjordanie, c'est quand même tout petit, hein, 5600 km², c'est à peu près la taille des Bouches-du-Rhône. Et aujourd'hui, alors que les colons sont nettement minoritaires par rapport à la population palestinienne, ils occupent maintenant la moitié du territoire. Ça augmente sans arrêt. Il y a plus du tout de notion de colonie légale et de colonie illégale. Tout ce qui avait été autrefois des avant-postes des colons, aujourd'hui, ça a été complètement légalisé. Et ils ont maintenant des routes, l'électricité et tous les équipements, et surtout la protection de l'armée. Il y a en plus une espèce de, et ça date aussi d'assez longtemps, une connivence absolument complète entre les colons et l'armée. Déjà savoir que les Palestiniens de Cisjordanie dépendent de la justice militaire, alors que les Israéliens dépendent de la justice civile. Savoir que, alors que toutes les colonies seraient théoriquement illégales, la moitié des électeurs de Meir Habib habitent dans des colonies, donc des territoires qui sont censés être illégaux au niveau du droit international, et ça n'empêche pas la France de les autoriser à voter pour cette espèce d'histrion ancien du Bétard. Voilà, on a une situation qui fait que le nombre des arrestations a énormément augmenté. On en est environ à 500 morts, hein, bien en silence.
En Cisjordanie, oui.
En Cisjordanie uniquement, donc hein, hors Gaza. On en est sans arrêt à des milliers d'arrestations. Les quelques mouvements qui sont nés en Cisjordanie, genre la tanière des lions et tout, pour les décimer, ont détruit des quartiers entiers. À Jenin, les destructions sont tout à fait comparables maintenant à ce qui a eu lieu en 2002 quand les tanks de Sharon étaient rentrés dans le camp et avaient écroulé tous les bâtiments. Donc voilà, c'est une répression absolue. C'est,
et puis je dirais aussi une impunité totale des colons le fait marquant quand même d'aujourd'hui, c'est que ce sont quand même des colons très durs idéologiquement.
Ben, Dieu a donné cette terre au peuple juif.
Voilà, qui ne sont pas prêts à la moindre concession. Et ils sont absolument sûrs qu'ils sont dans le bon droit. Et effectivement, ils jouissent d'une totale impunité, puisque l'armée les soutient
alors
totalement.
Ça aussi, c'est nouveau, parce que historiquement, en Israël, l'armée, celle qui va gagner la guerre de 48, faire la guerre de 56 et gagner la guerre de 67, était une armée dirigée par des généraux laïcs, avec toutes les guillemets qu'il faut y mettre, les Moshe Dayan, les Yigal Alon, les Yitzhak Rabin. Et maintenant, c'est une armée d'extrême droite qui est dirigée par des colons. Koshavi était un colon. Et celui qui a maintenant, comme ministre de la Défense, Yoav Gallant, c'est celui qui a expliqué que les Palestiniens étaient des animaux humains. Et donc, ils s'épaulent les uns les autres. Quand il y a eu le pogrom de Ouara, à côté de Naplouse, l'armée a laissé faire les colons qui ont incendié tout le village, qui ont brûlé les voitures, les magasins et qui ont tué au passage. Donc, bien évidemment, il n'y a plus aucune espèce de légalité. Les Palestiniens risquent la mort absolument de tous côtés.
Et d'autant plus que, après le 7 octobre, les colons ont été volontairement armés de façon massive. Donc les armes se sont démultipliées en Cisjordanie. Et évidemment, ça ne peut amener qu'à la catastrophe actuelle, quoi.
Et j'ajouterais, comme il y a des partis politiques prétendument de gauche en France qui nient qu'il y ait un apartheid en Israël-Palestine, je les invite, comme j'invite tous les auditeurs, vous allez passer un quart d'heure à Hébron, et vous n'aurez plus besoin d'un conférencier pour vous expliquer ce que c'est que l'apartheid.
Ouais. Je crois que c'est important aussi de souligner que le ministre des Finances, Smotrich, vit lui-même dans une des colonies, et c'est lui qui supervise la colonisation en Cisjordanie, et qui a permis que des tas de postes avancés, d'avant-postes sauvages, aient été légalisés et transformés en colonies réelles, quoi.
Celui-là, il a des déclarations extraordinaires. Il a déclaré récemment que pour résoudre le problème de la surpopulation en prison, en Israël, il n'y avait qu'une seule solution, c'était d'exécuter les détenus palestiniens.
Oui, enfin, c'est le même Smotrich qui a aussi dit que l'existence du peuple palestinien était une invention.
Alors ça, hélas, il n'est pas le seul. Quand Shlomo Sand avait écrit son livre « Comment le peuple juif fut inventé », il y a un obscur Horowitz en Israël qui avait écrit, mais qui a écrit ce qu'on leur apprend à l'école, « Comment le peuple palestinien fut inventé », puisque ce qu'on leur apprend à l'école, c'est que les Palestiniens, ça n'existe pas, que les Ottomans avaient amené là des Albanais, des Algériens, des Bosniaques, des Tchétchènes, et que ce qu'on appelle palestiniens, c'est ça. Autrement dit, qu'ils n'ont pas la moindre légitimité sur cette terre. Il faut comprendre que la situation d'aujourd'hui, le génocide, il est le fruit de deux phénomènes complémentaires, le déni et l'impunité. Et c'est les deux qui s'ajoutent aujourd'hui, qui expliquent que cette société est totalement malade, et que tant qu'elle ne sera pas sanctionnée, ben, il ne se passera rien, c'est-à-dire que le rouleau compresseur criminel et génocidaire va continuer. Il y a bien, il faut quand même le dire, il se passe quand même des toutes petites choses dans la société israélienne. J'ai bien dit des toutes petites choses. Il y a dans les articles d'Haaretz, on voit des intellectuels qui jusqu'à présent ne s'étaient pas prononcés et qui disent « c'est foutu ». Ce pays n'a plus aucun avenir, il faut partir. Jean Stern avait écrit un superbe article dans Orient 21. Alors c'est vrai qu'il avait centré son article sur Tel Aviv, qui est un peu un îlot bobo et un peu de juif européanisé. Mais tous disaient pays de merde et tous songeaient à partir. Il y a quand même il y a 45% des juifs israéliens qui détiennent un deuxième passeport. Et en ce moment, il y a une explosion des demandes de passeport. Donc il commence à y avoir une espèce de crise morale qui ne touche pas encore le fait, la Palestine, mais qui touche le fait qu'une partie de la population israélienne ne veut pas être dominée par ces espèces de messianiques assassins. Pour la première fois, j'ai entendu une mère d'otage, évidemment, réclamer la tête de Netanyahou et la libération des otages. Mais elle a dit en même temps... il n'y aura pas de solution tant que nous n'accordons pas l'égalité des droits aux Palestiniens. C'est un langage totalement nouveau. Il n'empêche, et peut-être on terminera là-dessus, que c'est la complicité internationale qui permet au crime de continuer. C'est le fait qu'Israël est soutenu bec et ongle par les pays occidentaux, alors que l'écrasante majorité des pays du monde a demandé l'admission de la Palestine à l'ONU, et que nous avons un devoir impérieux d'obliger nos gouvernements complices et nos médias complices à sanctionner l'occupant, parce que tant qu'il ne sera pas sanctionné, bah c'est les Palestiniens qui vont payer la note.
Alors oui, on va peut-être terminer en vous donnant un peu tous les événements qui sont prévus dans les jours qui viennent, mais peut-être n'oublions pas Jérusalem-Est, parce que nous avons parlé de Gaza et de la Cisjordanie. À Jérusalem-Est, il y a également, depuis le 7 octobre, encore plus d'accaparement de maisons palestiniennes, d'incursions d'Israéliens sur l'esplanade du Temple et aux abords de l'esplanade du Temple. On bloque aussi la possibilité pour les Palestiniens musulmans de pouvoir aller prier sur la... En tout cas, tous ceux qui sont, je crois que c'est en dessous de 55 ans pratiquement, qui ne peuvent plus monter sur l'esplanade. Il y a eu également des destructions et des accaparements dans le quartier arménien de Jérusalem. Donc à Jérusalem, et puis vous avez vu récemment aussi que le siège des locaux de l'UNRWA de Jérusalem-Est ont été brûlés et donc actuellement sont fermés parce que les employés de l'ONU ne peuvent plus travailler dans des conditions normales et en toute sécurité.
Mais ça c'est fou parce qu'Israël veut détruire l'UNRWA, le dit officiellement, calomnie l'UNRWA en permanence, ce qui fait que nos stupides gouvernements, un moment, ont supprimé les fonds à l'UNRWA. Vous supprimez les fonds à l'UNRWA quand il y a 6 millions de personnes qui en dépendent et quand c'est la majorité de la population à Gaza, on comprend que vous voulez affamer les Palestiniens. Et de façon tout à fait visible, les colons ont empêché les camions d'arriver à Gaza, les ont attaqués. C'est-à-dire que dans la définition internationale du génocide, organiser la famine, ça fait partie du génocide. Et les colons, comme l'armée, y participent.
Voilà, donc... Vraiment, on pense très fort aujourd'hui, particulièrement aux Palestiniens et à cette journée du 15 mai qu'ils commémorent. On voudrait terminer par les événements prévus dans les jours qui viennent à Marseille. Donc en ce moment, c'est un peu tard évidemment, mais à 18h, il y avait un rassemblement sous l'ombrière de Marseille pour justement marquer ce jour de la Nakba. Toujours ce soir, et là il est encore temps, à 19h au 56 rue Léon Bourgeois, dans le premier, il y a un karaoké de soutien aux Palestiniens. samedi qui vient à 18h, on vous le recommande particulièrement, à 19h, dans le local du syndicat solidaire au 29 boulevard Longchamp, Michel Bénizry donnera la conférence gesticulée qu'il a intitulée « Moi, Français, Juif, Arabe, comment j'ai démissionné du sionisme ?» Nous l'avons tous les deux déjà vu et on vous le recommande chaudement parce que c'est très pédagogique et en tout cas, on comprend bien la situation une fois qu'on sort de cette pièce. Et ce même soir.
Oui. Et parmi les organisateurs, outre Palestine 13 et l'UJFP, vous avez Tzedek, que tout le monde a pu voir avec un très grand plaisir dans les manifestations. Un nouveau mouvement, il a un an d'âge, de jeunes juifs opposés au colonialisme et au sionisme. Et ça fait vraiment du bien, cette fraîcheur qui nous arrive.
Oui. Alors, je complète pour le samedi soir. Le même soir, il y a une association et puis des citoyens et un collectif palestinien qui ont organisé une soirée palestinienne au 61 rue Consolat dans les locaux de Milbabor de 18h30 à 23h. Donc c'est un repas palestinien à prix libre et avec une chanteuse, de la musique, etc., des lectures, des poèmes. Et rien ne vous empêche d'aller à Michel Bénizry à 19h. Et d'enchaîner, puisque c'est jusqu'à 23h, à la rue Consolat, les deux événements étant à peu près à 400 mètres ou 500 mètres l'un de l'autre, donc très facilement atteignables. Donc tout ça, samedi soir. Le mardi 21 mai, à la librairie Transit au 51 boulevard de la Libération, il y a justement la présentation de ce nouveau collectif Tzedek dont vient de nous parler Pierre, et dont on est très très heureux de l'arrivée sur Marseille et de la création récente. Le samedi 25 mai, donc pas ce samedi mais le samedi d'après, à 9h30, Palestine 13 organise dans les locaux de la CIMADE au 8 rue Catala dans le 2e, de nouveau une session de formation, comme il y en a à peu près toutes les 6 ou 8 semaines, avec Saïd Bouamama qui fera une formation sur l'histoire de la résistance palestinienne. Donc c'est tout à fait ouvert. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir le samedi 25 mai à 9h30 au 8 rue Catala. Enfin, dernière information, aussi le samedi 25 mai, le même jour, mais l'après-midi, à 17h30 à la librairie Transit au 51 boulevard de la Libération, toujours, il y aura la présentation d'un ouvrage qui est sorti l'an dernier qui s'appelle « La Palestine en 50 portraits », un livre assez impressionnant mais très intéressant parce qu'il balaye des portraits de Palestiniens à la fois de contemporains mais aussi historiquement et même très anciens d'ailleurs. Donc c'est des portraits de la préhistoire à nos jours, on peut dire, et en présence de Sabri Giroux qui est celui qui a coordonné cet ouvrage, et de Norik Neveu qui est une de celles qui a écrit un des articles, un des portraits. Voilà, donc évidemment, comme tous les dimanches à 14h, il y a toujours une manifestation en soutien à la Palestine à la Porte d'Aix. Voilà.
Pour ceux qui sont hors de Marseille, le film Yalla Gaza va passer le 21 mai à Miramas, c'est moi qui assurerai le débat, le 24 mai à Utopia Avignon, et on a bon espoir de le faire passer à Marseille fin juin, à l'Alhambra probablement.
Voilà, donc on va vous laisser. Vous savez que cette émission peut être revue le lundi entre 11h et midi, et on vous donne rendez-vous donc à mercredi prochain, autour des questions plus d'actualité. Voilà, bonne soirée.
Au revoir. Binti Shalabi.